Et c'est pour ça que nous devons comprendre un certain nombre de choses et simplement de les mettre en pratique. Le royaume de Dieu, c'est très simple. L'important, c'est de connaître les vraies lois du royaume et de les pratiquer. Nous allons prier, nous allons partager la parole. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton royaume. Je te remercie pour, Seigneur, le monde invisible qui domine le monde visible. Et Père, je prie pour que chaque personne encore puisse mieux comprendre avec son cœur les réalités du monde invisible. Je veux te remercier pour ta parole encore ce matin. Et je crois que tu nous éclaires, Seigneur, au travers de ta parole et de l'onction de l'Esprit. Tu nous éclaires sur ce monde invisible. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons continuer donc sur le monde invisible. Parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez en avoir l'instruction par la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le monde invisible. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans beaucoup de confusion. Même quand on leur demande, tu es sauvé, tu vas au ciel, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans le ciel. Et c'est quand même dommage parce que tu vas passer du temps dans le ciel. Combien de temps, on ne le sait pas, ce sera au jour J de notre mort physique.
Où
notre esprit et notre âme vont partir au troisième ciel dans la présence du Seigneur. Jusqu'au moment où Jésus va revenir chercher son église, l'enlèvement. Où là, nous savons bien que nous allons revêtir un corps incorruptible. C'est-à-dire qui ne sera plus corruptible par le péché, qui ne pourra plus pécher, mais en même temps qui sera immortel. Puis nous savons qu'il y aura ces 7 années où nous resterons là-haut et la terre sera troublée. Mais après, nous reviendrons ici et nous régnerons pendant 1000 ans avec
Christ.
Donc le temps que tu vas passer au ciel, tu ne le sais pas exactement. Par contre, comme nous allons le voir dans cet enseignement aujourd'hui, eh bien, ce qu'il y a au ciel va venir sur la terre. Ça sera la fin du millénium. Donc tu verras se matérialiser dans la perfection ce qu'il y a au ciel et ça viendra sur la terre, ça s'appelle la nouvelle Jérusalem. Nous savons et nous l'avons étudié la dernière fois que d'abord, Dieu d'abord existe de toute éternité. Et qu'il a d'abord créé le monde invisible. Et après, il a créé le monde visible. Il est très important de comprendre que c'est l'invisible qui va dominer le visible. C'est d'ailleurs un immense principe de la foi que Dieu a utilisé et qu'il nous enseigne dans sa parole. Il faut d'abord que les choses se passent dans le surnaturel invisible avant que les choses soient rendues en manifestation. Et c'est pour ça que Hébreux 11, verset 3 nous dit que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors nous nous sommes posé un certain nombre de questions. Nous avons vu dans Genèse 1:1 que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que Paul nous révèle dans 2 Corinthiens 12 qu'il y a 3 cieux. Et je vous ai montré qu'on s'accorde en général, les théologiens s'accordent, et je suis entièrement d'accord avec ça, que le premier ciel c'est l'atmosphère, là où la vie biologique est possible. Le deuxième ciel c'est tout ce que nous voyons dans l'univers. Et c'est passionnant de voir les physiciens qui regardent les étoiles. Ils ont ramené plein de choses, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Parce qu'ils se posent des questions sur jusqu'où va notre univers. Parce que Dieu a mis une limite à cet univers. À ce deuxième ciel. Mais j'en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est très intéressant d'étudier les dernières découvertes en physique. Maintenant, il y a un ciel qui n'est pas matériel, physique. Qui est le troisième ciel. Et nous sommes en train d'étudier ce troisième ciel. Et nous avons commencé à regarder un petit peu les visions de l'Ancien Testament du ciel avec les visions du Nouveau Testament. Nous allons continuer aujourd'hui avec les visions du Nouveau Testament. Nous avons découvert plusieurs choses. D'abord qu'il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui vont voir le trône de Dieu. Ils vont nous décrire des créatures angéliques d'ultra haut rang. Nous l'avons vu, ce sont les chérubins. Et la meilleure description que nous avons des chérubins se trouve, nous l'avons vu dans Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10. En fait, au départ, dans chapitre 1, Ézéchiel commence à nous parler d'animaux. Il parle de quatre qui ont chacune quatre faces. Nous allons revoir cette révélation dans le Nouveau Testament avec Jean. Et nous savons que les chérubins ont six ailes. Qu'il y a des roues où il y a plein de dieux dedans. Et qu'apparemment ce sont des créatures assez difficiles à décrire parce que Ézéchiel prend une bonne partie du chapitre 1 et puis il prend aussi une partie du chapitre 10 pour nous expliquer qu'est-ce qu'il a vu. Et nous savons que dans le ciel il y a ce trône de Dieu, il y a une immense mer qu'ils appellent des mers, une mer de verre en quelque sorte, de cristal. Il y a comme un arc-en-ciel. Je vous dis ça parce que vous allez le voir un jour. Et le trône est soutenu par quatre chérubins. C'est ce que la Bible nous révèle. Mais dans l'Ancien Testament, les visions qu'ils ont, c'est seulement ça. Donc ils voient le trône. Il voit Dieu assis sur son trône, mais pas la face de Dieu. Car la Bible est très claire, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu et vivre. Tant que nous sommes dans ce corps corruptible. Et en fait, on voit que autour de ce trône, il n'y a rien qui est décrit au départ. Dans l'Ancien Testament. Il y a aussi la vision d'Ésaïe que nous avons étudiée. Et là, on parle de séraphins. Et là, ce sont des êtres qui volent autour du trône en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et nous verrons aussi que les chérubins font la même chose. Mais ils ne volent pas apparemment autour du trône. Certains serviteurs de Dieu ont été au troisième ciel, tels que Paul a été au troisième ciel. Ainsi que Jean qui a été au troisième ciel. Et ça s'appelle, cette expérience s'appelle être ravi en esprit, je vous le rappelle. C'est-à-dire que surnaturellement, Dieu fait sortir l'esprit et l'âme d'une personne, l'amène au ciel pour une période courte, montre le ciel, et cette personne revient dans son corps. Ça, c'est apparemment ce que Paul nous décrit dans 2 Corinthiens 12. Et c'est exactement ce que vous voyez à plusieurs reprises avec l'Apocalypse de Jean. Et c'est ce que nous allons continuer d'étudier au travers de l'Apocalypse. Et nous allons revoir donc Apocalypse chapitre 4 où Dieu nous montre au travers de son serviteur Jean
bityo mu mukozi wayo Yohana
nous donne une vision du trône là où il est
itwereka ingene ijuru rimeze ahiri ingene
vision du ciel c'est là où tu vas aller
ukwerekwa kwijuru niho turiko turaja.
Et nous allons continuer à faire des commentaires sur cela parce que je vais vous amener après à voir ce qu'il y a dans le deuxième ciel et le premier ciel est sous la terre
aussi.
Parce que vous devez être conscient du monde invisible. Et je vous encourage très fortement à méditer la parole de Dieu sur le monde invisible.
Ça
vous enlèvera des mauvaises mentalités, c'est-à-dire des choses que vous croyez qui ne sont pas scripturaires. Ça vous permettra de comprendre le monde angélique aussi. Ça vous permettra aussi de comprendre que le diable et les démons sont loin d'avoir toute la puissance qu'ils essayent de nous faire croire. Nous expliquerons aussi ce que la Bible entend par le prince de la puissance de l'air. Donc tout ça, ça sera dans des sermons suivants parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire loin de là aujourd'hui. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, vous retrouvez cette vision avec laquelle nous avions terminé la dernière fois. Et je vous rappelle qu'au chapitre 1, Jean va voir le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle qu'il y a trois types de visions. Des visions spirituelles, c'est-à-dire vous avez les yeux fermés et à l'intérieur de votre esprit, c'est comme une télévision, entre guillemets.
Et
il y a aussi des visions ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a visitation d'un ange ou visitation du Seigneur Jésus tout en gardant le monde naturel. Vous voyez le monde naturel et le monde spirituel en même temps. Et il y a le troisième type de vision, ce sont les visions quand on est ravi en esprit. Et c'est le chapitre 4, au début du chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc, Jean reçoit une première vision en étant ravi aussi en esprit en Apocalypse 1. Il voit Jésus, mais il ne voit pas son entourage. Je vous rappelle qu'avoir une vision, c'est le don spirituel qui s'appelle le don de discernement des esprits. Ce don nous permet de voir et d'entendre dans le monde de l'esprit, de monde spirituel. Ensuite, au chapitre 2 et au chapitre 3, nous avons un message aux sept églises. Chapitre 4, Jean va recevoir une autre vision, une vision complémentaire. Il va faire la même expérience que Paul a faite dans 2 Corinthiens 12 que nous avons commenté précédemment.
Et
il dit, après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit. » Vous savez ce que c'est maintenant. « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, le troisième ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Nous allons en parler aujourd'hui. Et sur ces trônes, 24 anciens. Assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix, du tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous allons aussi commenter cela aujourd'hui. Devant le trône, c'est comme une mer semblable à du cristal. Au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les 4 êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards ou anciens, je préfère cette traduction ancien, se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Ici, nous avons une description de ce qu'il y a du trône de Dieu, de ce qu'il y a autour du trône de Dieu.
Igice cya kane cy'ibyahishuro Yohana cyose batwereka rero ikiri ku ntebe y'inganje y'Imana n'ibikikuje intebe y'inganje y'Imana.
On retrouve un certain nombre de choses que nous avons étudiées dans les visions de l'Ancien Testament.
Turabona ibintu twari twabonye mu kwerekwa ko mu isezerano rya kera.
Entre autres, le trône de Dieu.
Intebe y'inganje y'Imana barayivuga.
L'arc-en-ciel, la mer de cristal.
Umunwa amazi barawuvuga, ikiyaga cy'ibirahuri barakivuga.
Ces quatre êtres qui sont remplis Dieu. Qui sont quoi? Ni plus ni moins des chérubins. Et d'ailleurs, les chérubins ont une mission très particulière près du trône de Dieu. Remarquez d'abord que le chiffre 4, c'est pas un chiffre qui habituellement est utilisé dans la Bible. Dieu fonctionne souvent avec 1, avec 3, avec 5, avec 7. Ça, c'est les chiffres qui sont les plus utilisés dans la Bible. Bien sûr, 3, ça nous fait penser à la Trinité. Ça nous fait penser à l'homme, esprit, âme et corps. Beaucoup de choses dans la création marchent d'une façon tripartite. Beaucoup de choses. Mais je ne vais pas entamer ce sujet. Donc, 5, ça va être par contre le chiffre de la grâce. 7, c'est souvent le chiffre de la perfection. Et il y a d'autres chiffres aussi, je ne vais pas continuer là-dessus. Mais ici, 4, ce n'est pas vraiment un chiffre qu'on retrouve facilement dans la Bible. Et nous étudierons qu'avant, il y avait 5 chérubins autour du trône. Chérubin, ça veut dire protecteur. Ça veut dire un certain nombre de choses, protecteur entre autres. Ça vient d'un mot hébreu qui veut dire garder aussi. Et quand on regarde par exemple lorsque Adam et Ève vont chuter, Dieu avait prévu un environnement parfait autour d'eux. Lorsqu'ils vont pécher, Dieu va faire quelque chose. Genèse 3:24. Ça va vous montrer ce rôle de ces chérubins. Et on peut vraiment se poser beaucoup de questions sur le jardin d'Éden quand on voit le mot chérubin ici. On peut vraiment se demander si Dieu n'avait pas fait descendre du ciel deux chérubins dans le jardin d'Éden.
Avant
la chute d'Adam et Ève. Rappelez-vous quand même une chose. La terre était supposée être une extension du ciel. Avec comme complément la dimension du monde physique. Mais l'objectif de Dieu, quand il a créé la terre, c'était d'étendre son royaume avec une dimension, la dimension matérielle, physique. Quand Adam et Ève vont chuter, après que Dieu ait prononcé la malédiction sur l'homme, qu'on appelle la malédiction de la chute, il est dit au verset 24, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il est dit ici, les chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est pas très simple à traduire, il y aurait beaucoup de traductions possibles sur ce verset. Mais vraiment, le mot chérubin, c'est vraiment protéger, garder, ariko prendre soin. Vous savez, Dieu sait se protéger. Parce que la gloire de Dieu doit être protégée. Dans le ciel, la gloire de Dieu est protégée. C'est pour ça, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a des démons au ciel. Il n'y a pas de démons au troisième ciel. Dans aucune des visions, vous n'en verrez des démons au troisième ciel. Il y a des confrontations entre le Seigneur et le diable, oui, à plusieurs reprises dans la Bible. Mais dans le troisième ciel, il n'y a pas de démons. Un jour, il y a un chérubin qui s'est rebellé, nous le savons. C'est d'ailleurs pour ça que dans Ézéchiel 28, il est parlé du chérubin protecteur parce que ça fait mieux ressortir ce que veut dire chérubin. Parce que les chérubins sont là pour protéger le trône et la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on les retrouve en Éden, mais ils ne vont pas rester en Éden. Après la chute, et apparemment Dieu avait envoyé deux chérubins sur Éden. Ensuite, Dieu va détruire le jardin d'Éden. Pour que l'homme n'ait pas accès à l'arbre de vie. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait des lois spirituelles qui soient violées. Ici, ces chérubins vont protéger quoi? L'arbre de vie. Ça veut dire que si Adam et Ève étaient revenus dans le jardin après le péché, après la mort spirituelle, et ils auraient pu revivre spirituellement parlant, ça aurait été une violation des lois de Dieu, une violation des lois spirituelles, parce que quand il y a péché, il doit y avoir jugement. Et le seul qui pourra racheter l'homme, il viendra 2000 ans plus tard. Dans la personne de Jésus-Christ, bien sûr. Quand il va mourir et ressusciter pour nous. Revenons à Apocalypse 4. Il y a beaucoup de choses sur ce texte, énormément de choses. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Donc, Jean voit le trône, il voit le Seigneur assis sur son trône. Nous l'avons vu, il voit l'arc-en-ciel, il voit la mer devant. Et ces chérubins, il va encore les décrire, comme Ézéchiel les aura décrits dans le chapitre 1. On va revoir le verset 7 et après on va en terminer avec l'étude sur les chérubins. Apocalypse 4, verset 7. Et là, nous allons remarquer plusieurs choses. Il est dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Quand on compare avec la vision que Ézéchiel avait reçue, que nous avons étudiée la dernière fois, Ézéchiel va montrer que chaque chérubin a quatre faces. Ce qui n'est pas en contradiction avec le texte ici. Parce que Jean va remarquer une seule face de chaque chérubin. Et c'est une image par rapport aux quatre évangiles qui nous est donnée assez souvent. Il y a quatre évangiles. Et il est dit ici, le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion, ça nous fait penser à la royauté. Et évidemment, c'est l'évangile de Matthieu. Ensuite, il nous parle, le chérubin a aussi une tête qui ressemble à un veau.
un visage.
Et le veau, bien sûr, ça fait penser au serviteur. Jésus a été dépeint comme le serviteur dans l'évangile de Marc. Le serviteur. Ensuite, le troisième être vivant comme le visage d'homme. L'homme représente évidemment la facette que Jésus a montrée dans l'évangile de Luc, c'est-à-dire son humanité. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle, et l'aigle nous fait penser bien sûr à la divinité. Et Jésus est très largement dépeint dans l'évangile de Jean comme Dieu le Fils. La Bible nous donne beaucoup d'analogies, et ce n'est pas pour rien. Maintenant, la Bible va nous parler de quelque chose de complètement nouveau par rapport aux visions de l'Ancien Testament. C'est qu'il va y avoir du monde autour du trône. On va regarder rapidement l'Apocalypse 7 et on reviendra sur Apocalypse 4 dans quelques minutes. Il est dit, Apocalypse 7, à partir du verset 9, il est dit après cela, donc Apocalypse 7, verset 9, « Après cela, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main, il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens et les quatre êtres vivants, ils tombèrent la face contre terre devant le trône et adorèrent en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. »
bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashi n'amashami y'ibigazi mu minwe basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'akimana yacu ibyagiye kuri ijya ntebe n'ak'umwagazi w'intama.
Donc on voit ici une description de qu'est-ce qu'il y a autour du trône en dehors de ce qu'on a déjà vu.
Alors tu
en
as
tout en plus en tout cas.
Yuko hijya ijyo tumaze kubona hari ibindi bikikuje intebe y'inganje.
Bien sûr, on revoit les quatre êtres vivants. On sait que ce sont des chérubins. Mais on sait aussi qu'il y a encore les 24 vieillards, on va en parler. Les anciens, précisément, c'est mieux. Mais aussi, on voit une grande foule. Nulle part dans l'Ancien Testament, vous voyez Ésaïe vous décrire autour du trône qu'il y a quelque chose.
Ézéchiel,
qui est le prophète qui nous explique le plus de choses sur comment l'onction fonctionne dans l'Ancien Testament, a vu lui-même plusieurs fois le trône et la gloire de Dieu. Et il ne nous décrit que le trône et les chérubins. Jamais il y a quelqu'un autour du trône. C'est vraiment une grande remarque qu'on peut faire entre les visions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est normal. Je vais vous le dire pourquoi dans quelques minutes. Mais c'est sûr que, Dieu soit béni, Jean nous a donné vraiment une vision de la réalité d'aujourd'hui du ciel. Parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient une vision de la réalité du ciel avant la résurrection de Christ. Il n'y avait personne autour du trône de Dieu avant que Jésus ne ressuscite. Parce que quand les hommes mouraient avant la résurrection de Jésus, ils ne pouvaient pas aller au ciel. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne pouvons pas dire que Élie a été au troisième ciel. Ni Enoch non plus. Parce que si nous soutenons une telle théologie, ça veut dire que Jésus est mort pour tous les péchés, sauf pour les péchés de Noé et de Élie.
Yesu yarapfiriye ibindi byaha byose kiretse bya Eliya cyangwa bya Henoki.
Ça voudrait dire que tous les que en fait les hommes ne peuvent être sauvés au travers de Jésus mais qu'il y avait quand même deux exceptions.
Byosobanura ngo abantu barashobora gukizwa biciye mu kupfa kwa Yesu mugabo kumbura hari nabandi bakijijwe mu bundi buryo.
Et une telle théologie n'est pas soutenable.
Ibyo navyo nta numwe yo bishigikira.
Le salut c'est par Christ uniquement.
Agakiza kabonekera muri Yesu
wenyine. L'accès au ciel après la mort physique c'est seulement par Christ.
Gushika mu ijuru inyuma y'ugupfa nibiciye muri Kristo.
Sinon Jésus aurait dit je suis une porte.
Ataruko Yesu yarakuvuga ati genda umujyango.
Je suis un berger.
Ndumujyango umwe mu yindi mijyango ndumwungero mu bandi bungere.
Mais Jésus n'a pas dit ça. Vous savez l'évangile et d'ailleurs souvent on dit qu'on est très exclusif.
Bere karige tubavuga yuko turi abantu bihariza ibintu.
C'est-à-dire que on a un message et que il y a pas d'autre vérité en dehors de la vérité de la parole.
Bisobanura nivyo turi hariza ibintu kuko hari ubutumwa dufise kandi hijya yabwo nta bundi
butumwa. On nous traite parfois de fanatiques par rapport à ça.
Harige bavuga ngo turi abantu bindenza rugero rimwe namwe kubera ivyo bintu.
Mais je suis désolé, Dieu est un Dieu exclusif. Dieu est un Dieu qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement.
Ariko urumva nta kundi reka babwiza ukuri Imana ivuga ngo nuko bimeze kandi nta yindi nzira
ihari. Avec Dieu, il y a pas les négociations d'arrangement qui sont possibles.
Hamwe n'Imana nta migambi y'amahoro y'umwumvikane ishobora kuba.
On essaie de se mettre d'accord et trouver un compromis.
Aho bagerageza kumvikana kugira ibiganiro ngo bumvikane.
Jésus est le chemin, pas un chemin.
Yesu niwe nzira, nta apana inzira imwe mu
nzira. Il est la vérité et la vie.
Niwe kuri, niwe buzima.
Il est le bon berger.
Niwe mwungere mwiza.
C'est exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres.
Tous
les autres sont des menteurs. Tous ceux qui soutiennent un salut en dehors de Christ et de son sacrifice sont des menteurs. Même s'ils ont la Bible en main. L'évangile est absolument exclusif. Il y a un seul message et c'est tout.
Soit
on l'accepte, soit on le refuse. Et c'est pour ça qu'il n'y avait personne dans l'Ancien Testament qui allait au ciel. Ils allaient dans le sein
d'Abraham.
Juste pour faire une petite parenthèse sur ce sujet, regardez Éphésiens
4.
Certains, vous avez besoin vraiment d'éclairage sur ce domaine, dans ce domaine-là parce que vous êtes encore dans la confusion. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on soit dans la confusion. Dieu aime que nous puissions comprendre les choses. Parce que la vie chrétienne, c'est pas simplement bon, je demande pardon pour mes péchés, j'accepte Jésus et je chauffe le siège d'une église. Non, Dieu t'a donné une intelligence et il veut que tu développes cette intelligence et que cette intelligence soit une intelligence spirituelle. C'est-à-dire que tu comprennes le monde spirituel. Parce que si tu ne comprends pas le monde spirituel, et rappelle-toi que le chemin de ton cœur, c'est d'abord ta tête. Ta tête doit être éduquée par la parole. Et ton esprit doit se nourrir de la parole. C'est alors que tu rentreras dans des dimensions qui sont les dimensions du surnaturel. Tu ne pourras pas rentrer dans les dimensions du surnaturel si tu ne comprends pas à la fois avec ta tête et à la fois avec ton cœur la parole de Dieu. Dieu t'a donné une intelligence, mais elle doit être modifiée, elle doit être reprogrammée, elle doit être sanctifiée. Dieu est venu habiter en toi pour que tu aies conscience de ces réalités. Parce que tu ne pourras jamais vivre vraiment pleinement dans la plénitude de Christ si tu ne comprends pas comment fonctionne le monde spirituel. Tu ne pourras pas connaître réellement ce qu'est la foi si tu ne comprends pas le monde spirituel. Tu ne pourras jamais couler dans l'onction de Dieu et être utilisé par Dieu si tu ne comprends pas le monde spirituel. Tu ne pourras pas aller vouloir parler des autres, de Christ, des autres qui sont morts dans leurs péchés. Si tu ne comprends pas ton espérance, que c'est que le ciel, ce qu'il y a dans le ciel. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal.
N'ibisanzwe cyane.
Et même quand tu traverses des moments difficiles.
N'igihe uri kuraca mu bihe bitoroshe.
Je vous rappelle que la meilleure position pour marcher victorieusement sur cette terre.
Ndabibutse ko ikibanza cyiza cyo kugenda unesha muri nosi.
C'est d'avoir entre guillemets la tête dans le ciel et les pieds bien sur terre.
N'ukugenda umutwe uri mwijuru.
Ça veut dire que tu vis le royaume présent à la lumière du royaume futur et de la révélation des fils de Dieu. Je pourrais prendre exemple sur exemple dans notre vie spirituelle, dans nos prières, dans nos façons de nous comporter, dans la façon dont tu vas prendre des décisions dans ta vie. Et je te rappelle que tes décisions vont déterminer les directions de ta vie. Et ces directions vont façonner, vont forger ta destinée. Ça commence par des décisions qui sont influencés. Soit tu es influencé par cette parole et par sa présence. Soit tu es influencé par l'esprit du monde. On en parlera des influences ici sur la terre. Mais les comportements sont influencés. Les comportements humains sont influencés. L'homme est influencé. L'homme est influençable. Le tout, c'est de savoir par de quelle influence tu es influencé. Si tu as une révélation du royaume futur, de ce qu'il y a là-haut, que tu médites ces choses, que tu dis, Seigneur, c'est ça qui m'attend là-haut. Mais Jésus, j'ai une vie à vivre sur cette terre. Et je vais vivre cette terre en étant influencé sur la révélation que j'ai du royaume futur. Mais je vais dire une chose, tu vas vivre une autre qualité de vie. Tu vas vraiment chercher autre chose dans ta vie. Tu vas arrêter d'être le petit chrétien qui tourne autour de toi-même. De celui qui est en train de prier, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, tu vois, Seigneur, comme je le dis souvent, regarde tes prières. S'il y a du moi-même et je tout le temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je vais être béni, moi. Ça veut dire que tu as un problème quelque part. Tu manques d'une révélation sur l'éternité, sur le royaume de Dieu, sur le monde invisible, qui t'amènera justement à vivre d'une façon différente, à te comporter d'une façon différente, à donner d'une façon différente, à être motivé d'une façon différente. Parce que tu ne seras pas ce chrétien égoïste qui est uniquement, qui a les yeux uniquement sur lui-même et sur son petit nombril, comme on dit en français. Regardons Ephésiens chapitre
4.
La Bible nous dit la chose suivante. Il dit, verset 8, c'est pourquoi il est monté dans les hauteurs et il a emmené des captifs. On parle de Christ ici, qui repart au troisième ciel, qui s'assoit à la droite du Père. Il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de toutes choses, de tous les cieux, pardon, afin de remplir toutes choses. Verset 8 à 10, merci.
Kumurongo munani, abanye fesi gice chakane, nico gituma ivuga, iti yaraduze, aja iyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose.
Nous savons que ces captifs que Jésus a emmenés, c'était ceux qui croyaient en lui, qui étaient avant la nouvelle alliance.
Iyo minyago Yesu yazanye n'abari baramwizeye kera, bari babayeho mu isezerano rya kera.
Le roi David, quand il est mort, il a été où? Il n'a pas été au troisième ciel parce qu'on ne pouvait pas aller au troisième
ciel.
Si les saints ou ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament pouvaient aller au troisième ciel directement, pourquoi est-ce que Dieu le Fils serait venu et serait mort sur une croix? C'est C'est pour ça que David faisait des déclarations « Je suis né entièrement dans le péché ».
Si tu
es né de nouveau, n'ose jamais dire une telle chose à Dieu. Parce que c'est une insulte à la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que tu es fils et fille du roi des rois. Il t'a fait sortir du royaume des ténèbres. Pour te faire naître dans son royaume. Pour que tu puisses comprendre les réalités de l'éternité. Et savoir comment tu dois vivre ta vie et servir ton roi. Comment tu dois être enflammé d'amour pour lui. Prêt à faire ce qu'il te demande. À laisser derrière toi ce qu'il te demande. Et à te mettre à sa disposition. Non pas faire le contraire comme beaucoup de chrétiens font quand ils ressentent des appels. Beaucoup de gens ne se mettent pas à la disposition de Dieu. En fait, ils disent « Seigneur, je suis à ta disposition. » Mais dans leur pensée, en fait, c'est « Seigneur, tu es à ma disposition. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas à ta disposition. Et tu ne pourras jamais être vraiment à sa disposition dans le sens biblique, scripturaire du terme. Tant que tu n'as pas une révélation claire du monde invisible. Jésus va libérer toutes ces personnes qui croyaient en un Messie futur selon les promesses. Et qui était en prison, qui ne souffrait pas, mais qui était en prison dans le sein d'Abraham. Nous expliquons que Dieu contrôle le monde invisible. Et particulièrement des hommes. C'est pour ça que je réfute complètement les histoires de sorcellerie où on dit qu'une personne réapparaît et un mort réapparaît et vient ici sur la terre. C'est le plus grand mensonge, la plus grosse supercherie de la sorcellerie. Et ce qui est triste, c'est que parfois, il y a même des chrétiens qui étaient avant dans la sorcellerie qui vont vous raconter des témoignages qu'ils pensaient avoir vécu. Aucun mort ne peut sortir des lieux où Dieu les met. Parce que Dieu contrôle parfaitement les esprits humains. Dans l'ancienne alliance, il y avait deux directions. C'était soit le sein d'Abraham pour ceux qui attendaient la promesse du Messie. Et c'était sous la terre, nous la Bible nous dit. Dans ce texte-là et dans d'autres textes, c'est bien marqué. Où c'était l'enfer. Aujourd'hui, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, Jésus a vidé le sein d'Abraham et il n'y a plus personne qui va là-bas. Parce que Jésus a fait naître de nouveau ces gens qui l'attendaient. Car la Bible nous parle que Jésus est allé justement dans les régions inférieures de la terre. Et il a été dans le sein d'Abraham et il a libéré ses captifs. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, l'homme va dans deux directions toujours. Celui qui est né de nouveau, il va au troisième ciel dans la présence du Seigneur, dans ce que nous sommes en train d'étudier ici. Ceux qui partent dans leur péché descendent en enfer. C'est toujours pareil pour cela. Là où ça a changé, c'est pour ceux qui croient en Dieu et qui marchent avec Dieu. Donc, c'est pas compliqué, c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les visions qu'ils avaient quand ils étaient ravis en esprit, ils voyaient le trône, ils voyaient les chérubins, mais ils voyaient personne autour. Ça, c'est une nouvelle révélation. Le seul qui a eu une révélation sur la fin des temps, qui est Daniel, lui, il verra des gens et des trônes. Parce que Daniel a reçu des révélations. Mais rappelez-vous que toutes les révélations de l'Ancien Testament sur la fin des temps concernaient Israël.
wibuke ko ibyo bavuga byose ku isezerano mu isezerano rya kera ku bihe bya nyuma ni kuri Israel.
C'est une erreur qu'on voit communément quand les gens interprètent des textes.
Nico gituma hari abantu basobanura nabo gasanga bariko barabivuga babishira ku isezerano cyashya.
Je vous rappelle que les prophètes qui prophétisaient sur la fin des temps dans l'Ancien Testament
ndabibutse abavugishwa bavuga ku bihe bya nyuma mu isezerano rya kera
ne voyaient pas le temps de l'église.
Bobo bavuga batabona igihe cy'ishengero.
C'est pour ça que leurs prophéties il faut les prendre à la lumière de la nouvelle alliance.
Nico gituma ubutumwa batanze ubuvugishwa bavuze n'ukubura.
Parce que là aussi, j'entends beaucoup de bêtises sur des commentaires. Les chrétiens qui commandent des passages,
ou
même des prédicateurs qui ne font même pas attention à cela. Nous savons qu'à partir du moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée. Et elle reprendra au moment même où Jésus viendra enlever son église. C'est là où l'horloge prophétique pour Israël recommencera. Nous, nous avons beaucoup plus de révélations que même les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu a donné à Jean l'Apocalypse, entre autres. Pour nous montrer que maintenant, à partir du moment où quelqu'un va mourir, et qu'il est en
Christ,
eh bien il va au troisième ciel. C'est pour ça que Paul déclare que la mort est un gain pour lui. C'est pour ça qu'il sait pas, il est précédé de côté, soit d'être encore avec eux, parce qu'il doit servir le Seigneur, mais aussi il sait que être auprès du Seigneur c'est beaucoup mieux pour lui. Et nous savons qu'être auprès du Seigneur, où est-ce que Jésus est aujourd'hui? Nous savons que Jésus est retourné au troisième ciel et est assis à la droite du Père. Donc quand on parle de Jésus qui est assis, il est au troisième ciel à la droite du Père. Et quand la Bible nous parle que nous allons auprès du Seigneur quand nous mourrons, eh bien, dans la présence du Seigneur, c'est au troisième ciel. Donc c'est pour ça que les révélations du Nouveau Testament vont nous montrer des visions où il y aura des gens. C'est la grande différence entre les visions de l'Ancien Testament et les visions du Nouveau Testament. Maintenant, nous avons un texte dans Hébreux chapitre 12 qui nous enseigne très sérieusement sur ce monde invisible du ciel, du troisième ciel.
Hébreux
11 au verset 12. Hébreux 12 verset 22 va nous enseigner sur ce qu'il y a dans le ciel. Et vous allez retrouver un bon nombre de choses qui sont confirmées dans l'Apocalypse, etc. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas construire une doctrine sur un seul verset. Donc, à partir du moment où vous lisez un verset que vous ne comprenez pas, n'essayez pas de mettre une interprétation à votre sauce. Mais d'autres versets, à la lumière de la Nouvelle Alliance, vont vous aider à avoir l'ensemble de l'image que Dieu veut vous donner. On va lire à partir du verset 18. Je pense que Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, même s'il ne se nomme pas, parce que vu la connaissance qu'il fallait avoir pour écrire cette Épître, il va faire une comparaison entre ce qu'il vivait et donc le peuple d'Israël vivait à propos de la présence de Dieu. Et l'assurance que nous avons, nous qui sommes nés de nouveau, quand nous rentrons dans l'adoration. Vous savez, souvent l'adoration est quelque chose qui est très mal compris. Beaucoup de gens pensent que finalement l'adoration c'est simplement une certaine posture devant Dieu, et que la louange est de la gymnastique spirituelle. C'est très bien d'exprimer avec son corps certaines choses dans la louange, même l'adoration, s'exprime avec le corps.
Mais
ce que tu fais avec ton corps dans la louange et l'adoration doit être le reflet de la révélation spirituelle que tu as de la présence de Dieu. La vraie adoration, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça concerne le monde invisible. La vraie adoration. Et rappelez-vous que le Père cherche les vrais adorateurs. Et je vais vous dire une chose, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes les vrais adorateurs.
On va faire
un tour en arrière dans Jean chapitre 4 et après on va revenir dans Hébreux 12. Parce que c'est souvent quelque chose aussi qui est très 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 mal compris. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Il y a cette discussion, vous savez, vous les Juifs, nous les Samaritains, vous les, un tel église, tel machin, tel truc, quoi. C'était ça. Des gens qui ne comprennent pas bien les choses, qui religionnent tout et qui ne comprennent rien au monde spirituel. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire Jésus s'adresse aux Samaritains. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Regardez bien ce que Jésus va déclarer après, très important. L'heure vient, mais l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La définition de la vraie adoration, c'est quoi? Je vais te dire une chose. C'est très simple. La définition de la vraie adoration, c'est quand tu es plus conscient du monde invisible de Dieu que du monde visible que tu vois avec
lui.
Ça, c'est la vraie adoration que Dieu recherche. Et encore, je dis une bêtise, la vraie adoration, non, Jésus dit ici que c'est les adorateurs que Dieu recherche. Vous savez que Dieu ne recherche pas l'adoration, mais il recherche les adorateurs. Parce que l'adorateur, son fruit, c'est l'adoration. Et les vrais adorateurs.
Vous
voyez, c'est pour ça que je suis en train de vous enseigner sur le monde invisible. Parce que vous devez comprendre que nous prions un Dieu que nous ne voyons pas.
Et
il y a beaucoup de gens qui se sont écartés de la vraie spiritualité sous le couvert d'un vrai christianisme au départ. Et qui vivent dans un monde spirituel irréel qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués. Et pire que ça, ce que j'ai vu aussi bien souvent, des gens qui ont commencé à faire des expériences dans l'esprit et qui au bout d'un moment ont tellement dévié dans le sensationnel à la recherche des manifestations plutôt qu'à la recherche de la personne de Dieu, se sont complètement égarés, croyant que Dieu est dans le coup de tout ce qu'ils font alors que Dieu n'est même pas dans le coup dans quoi que ce soit. Nous croyons dans la prophétie. Nous croyons que Dieu parle. Nous croyons que Dieu se manifeste. Nous croyons que Dieu agit. Mais selon les lois divines du royaume. Et on voit réellement le fruit à son arbre. Quand quelqu'un réellement marche dans les choses de Dieu, il y a des fruits tangibles. Et ces fruits tangibles n'apparaissent pas du jour au lendemain. Je vous rappelle que si vous plantez un arbre aujourd'hui, demain matin, vous n'allez pas vous réveiller et lui dire « Donne-moi des mangues ». Vous allez attendre quelque temps. Et au bout d'un moment, il va porter ses fruits parce que c'est un bon arbre. C'est la même chose sur la compréhension du monde invisible du royaume de Dieu. Lorsque tu commences à rentrer dans la compréhension du fonctionnement des lois spirituelles du royaume, que tu vois certaines révélations, que tu comprends certaines révélations spirituellement parlant. Et rappelez-vous d'une chose, la révélation de Dieu se passe par la parole de Dieu et par l'onction de Dieu. Mais l'onction de Dieu ne passe jamais ou n'essaye jamais de donner des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand nous parlons du monde invisible, il faut que nous restions scripturaires 100%. C'est comme ça que des réveils ont été foutus en l'air. Il y avait un homme au début du XXe siècle qui s'appelait William Seymour, qui a été utilisé par Dieu vraiment puissamment pour être le catalyseur du réveil de Pentecôte qu'il y a eu dans le monde entier. Mais malheureusement, cet homme n'était pas bien instruit sur le monde invisible. Et alors, qu'il faisait des réunions de réveil puissantes où des gens du monde entier, et à l'époque, pour voyager du monde entier, pour aller en Californie aux États-Unis, c'était difficile. Mais des gens du monde entier sont venus dans ce petit endroit qu'il avait loué. On a estimé, je ne sais plus, à 1 million ou 2 millions de personnes qui sont venues visiter. Cet endroit était plein à craquer tout le temps. La puissance de Dieu s'est manifestée pendant plusieurs années. Mais malheureusement, lui-même n'avait pas beaucoup de compréhension sur le monde invisible. Il priait pour les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient touchés par l'onction. Des gens avaient des visions, des gens voyaient toutes sortes de choses. Mais il faut savoir que dans n'importe quel mouvement, et on vous tient, on régulièrement on rappelle ces choses. Parce que quand on étudie l'histoire de l'Église, on peut le voir. Lorsqu'il y a des mouvements de Dieu, lorsqu'il y a des réveils dans des endroits, le peuple de Dieu doit d'abord être instruit. Moi, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Il m'a dit pour que le réveil vienne ici, mon peuple, la connaissance de ma personne doit augmenter. Parce que sinon, ça sera perdu. Et c'est malheureusement souvent perdu. Parce que des gens commencent à marcher dans le monde invisible et commencent à voir la puissance de Dieu. Mais ils manquent de repères scripturaires pour pouvoir discerner ce qui vient réellement de Dieu vers ce qui ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, William Seymour, il y a des hypnotistes qui se sont introduits à l'époque dans ces réunions parce qu'ils entendaient qu'ils priaient pour des gens et des gens tombaient sous la puissance de Dieu, donc tombaient par terre. Et l'hypnotisme vous fait tomber par terre, vous met dans un sommeil au travers d'esprits sataniques, bien sûr. Et ces gens se sont introduits dans ces réunions et ont commencé à prendre le contrôle. Et au bout d'un certain temps, alors qu'il avait été prévenu par un homme de Dieu, son mentor, celui qu'il avait formé, il n'a pas écouté. Et ce mouvement de réveil s'est rapidement après terminé. Au bout de 3 ans. Pourquoi? Par un manque de compréhension du monde invisible. Revenons donc à Hébreux 12. Les vrais adorateurs, c'est nous, frères et sœurs. Ceux qui sommes nés de nouveau. Les vrais adorateurs, c'est nous. Ceux qui peuvent expérimenter la vraie adoration qui plaît au Père en esprit, en vérité, c'est l'Église. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas né de nouveau. Il pouvait profiter de la présence de Dieu que jusqu'à un certain degré et c'était rare. Quand nous nous approchons de Dieu, dans la louange et l'adoration, voilà ce que la Bible nous dit. On va relire cette comparaison en Hébreux 12 à partir du verset 18 et c'est à partir du verset 22 qu'on verra vraiment la comparaison. Vous ne vous êtes pas approché, verset 18, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles, telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adressère plus un mot. Ça, c'est les Israélites devant la montagne, le Sinaï, là où Dieu révélait sa gloire. Et ils ne supportaient même pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Vous trouvez ça dans l'Exode, entre autres, et dans Deutéronome. Verset 22. « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Regardez bien. « Mais au contraire, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui commencez, quand vous vous approchez de Dieu, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » C'est qui les premiers-nés inscrits dans les cieux? Ce sont ceux qui sont morts en Christ et qui sont au troisième ciel. De Dieu, juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Versets 22 à 24,
s'il vous plaît. Umuhuza heshi isezerano risha mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ibya Abeli.
Donc la Bible nous révèle bien qu'il y a une Jérusalem céleste.
Bitwerekana neza ko hari Yerusalemu
yera. Il y a des myriades d'anges dans ce troisième ciel aussi.
Ngo hari abamarayika ishengero ry'abamarayika.
Il y a ceux qui sont morts en Christ.
Hari n'abapfiriye muri Kristo.
L'esprit des justes parvenu à la perfection.
Abashoboye gushika ku bugororotsi.
Ça, c'est la révélation du Nouveau Testament.
Maintenant,
pour clôturer, nous allons donner un mot sur les 24 anciens dont il est parlé dans Apocalypse
4.
Revenons sur Apocalypse 4.
Apocalypse
4. Juste à la fin de l'Apocalypse 4, c'est une parenthèse, ça va être le déclenchement de la tribulation. C'est pour ça qu'on va parler de l'agneau qui va pouvoir ouvrir les seaux du jugement de Dieu. Nous ne serons plus sur la terre à cette époque-là. La Bible nous dit au verset 4 d'Apocalypse 4, autour du trône il y avait 24 trônes. Sur ces 24 trônes, 24 anciens assis et de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or.
Qui sont ces 24
anciens?
On
remarque qu'ils sont autour du trône, ils sont même sur des trônes.
Donc ils
sont dans des positions particulières, des positions d'autorité.
Vous
remarquez qu'ils ont une couronne sur la tête.
Et
cette couronne sur la tête veut dire qu'ils ont reçu un titre de quelqu'un qui est supérieur, bien sûr, de Dieu. Qu'ils ont été choisis par le Créateur des cieux et de la terre pour être autour du trône de Dieu. La Bible nous donne certains éléments de réponse, mais pas tous les éléments. Je vous donnerai mon interprétation, je dis bien mon. que je pense être viable, vous pourrez ne pas être d'accord avec cette interprétation, mais quand on sera au ciel, le Seigneur dira « Oui, le pasteur Olivier avait raison. » Ça, c'est pour vous éviter d'être tenté. Alors, les 24, donc 24. 24, on sait que ça fait 2 × 12. Évidemment, ici, on voit 12-12. Israël était représenté par 12 tribus. Jésus va choisir 12 apôtres. Et d'ailleurs, Jésus dira à deux reprises, dans Matthieu 19 et Luc 22. On va lire Matthieu chapitre 19, verset 28. Matthieu 19, 28. Nous dit Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il s'adresse aux 12 disciples qui, je vous rappelle, n'étaient pas encore revêtus de leur onction apostolique. Ils la recevront à la Pentecôte. Luc chapitre 22. À partir du verset 24, il est dit la chose suivante. Il est dit, il s'éleva aussi parmi eux, parmi les 12. Une contestation, la compétition. Lequel d'entre nous devrait être estimé le plus grand ? C'est toi ou c'est moi ? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui servent Dieu ne sont pas des gens qui sont honorés par les grands de ce monde. Il n'en est pas de même, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme les plus jeunes et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand ? Est-ce celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, c'est-à-dire tant que je suis sur la terre, et pourtant je suis comme celui qui sert. Regardez bien verset 28. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le verset 30, s'il vous plaît seulement. Merci.
Murongo wa 30 ngo muze murire munwere ku meza yanje mu bwami bwanje kandi muzokwicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imijyango y'Abisirayeli uko ari 12.
Donc je pense qu'il est simple de voir que Jean voyait prophétiquement les 12, mais les 12, pas tout à fait 12.
Ariko ndiko ndibaza Yohana ko yabonye bamwe 12 mu buryo bw'ubuvugishwa.
Parce que l'Apocalypse nous montre une vision actuelle du ciel. Et à la fois, c'était prophétique. Et les 12, oui, mais il y en a quand même un qui certainement n'est pas au ciel aujourd'hui. Qui pense que Judas est au ciel aujourd'hui ? Steve, tu ne crois pas ça quand même, hein?
Non.
Ah, ok, ça va. Tu es diplômé de l'Institut biblique quand même.
Ah ouais.
Ok, donc on sait que Judas n'a pas été au ciel, il était en enfer. Il est en enfer.
Turazi ko Yuda ari mu muriro ntari mu ijuru.
Donc sur les 12, il en reste 11.
Muri bamwe 12 hasigaye
12. Je me dis, ah non, au début des actes, ils en ont choisi un autre, c'est Matthias.
Wovuga uti mu ntango y'ibyakozwe n'intumwa baracaguye uwundi asubirira Yuda yari Matthias.
Vous savez que ce sont les hommes qui ont choisi Matthias. Matthias n'a jamais été revêtu d'une onction apostolique. C'était un choix humain. C'était d'ailleurs une violation du royaume de Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui
oint.
Et d'ailleurs, Matthias, le choix des 11, qui était un choix très sympathique et gentil, selon l'homme, n'a pas été le choix de Dieu parce que Matthias n'a pas été oint et n'a jamais été apôtre. Nulle part vous voyez l'apôtre Matthias.
Parce
que c'était un choix humain et Dieu n'a pas mis, il n'approuve jamais les choix humains. Dieu n'approuve que ses choix. Et encore quand ses choix marchent dans l'obéissance. Alors qui pourrait être le
12e?
Je pense que c'est Paul.
Je ne vois pas Paul.
Parce que Dieu va choisir un autre instrument qui va écrire la moitié du Nouveau Testament. Qui n'a pas vu Jésus selon la chair. Mais il semble évident que vu la part que Paul a eu dans les apôtres fondateurs de l'Église. C'est-à-dire au niveau de la doctrine. Paul a d'ailleurs joué un rôle majeur, beaucoup plus que les autres. Et il est évident que Paul, pour moi, sera le choix sur le 12e trône. Maintenant, il nous en reste 12. Et on parle de couronne. Qui veut dire couronne veut dire j'ai fait quelque chose. Rappelez-vous que les récompenses, on doit les gagner. Le salut est gratuit, mais la récompense, on la gagne. C'est-à-dire la position dans le royaume futur. Et je ne pense pas que les 12 fils de Jacob ont fait beaucoup de choses, en tout cas pour la plupart d'entre eux, pour le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Je pense personnellement, et je vous dis, on en discutera avec Jésus et vous si vous voulez, quand on sera au ciel, que ce sont les personnages clés de l'Ancien Testament qui seront sur ces trônes. Pour compléter les apôtres. Ou c'est les apôtres qui auront complété ces 12-là peut-être. Et je pense que des gens comme Abraham, comme Isaac,
Isaka,
comme Jacob,
Yacobo,
comme David,
Dawidi,
comme certains prophètes qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament, dont on pourrait peut-être faire une liste qu'on appelle exhaustive, c'est-à-dire complète, en disant certainement les 12 autres sont ceux-là. Parce que la Bible nous dit qu'Israël, les 12 tribus d'Israël seront jugées. La Bible nous dit aussi que nous jugerons les anges. La Bible aussi dit que nous jugerons aussi ceux qui passeront devant le grand trône du jugement de Dieu, le grand trône blanc, c'est-à-dire ceux qui ressortiront de l'enfer et qui vont ressusciter dans la deuxième résurrection. Nous aurons des positions dans le royaume futur. Que chacun ferme ses yeux ici. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que ta parole est remplie de révélations pour nous. Merci parce que tu nous aimes d'un amour extraordinaire. Et je prie pour que chaque personne ici ait une révélation du monde invisible. Qu'il puisse réellement vivre sa vie sur la terre avec une révélation de l'invisible, du troisième ciel, de ton trône, de tout ce qui nous attend de merveilleux,
Seigneur,
de la Jérusalem céleste, de tout ce que tu as préparé d'extraordinaire pour nous. Père, je veux te remercier pour cela. Je prie maintenant pour les personnes ici qui peut-être qui seraient venues ici qui ne sont pas sauvées. Si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Si tu n'abandonnes pas ton péché, si tu veux aller au ciel, voir le trône de Dieu,
et
ne pas passer par le jugement de Dieu. Alors il faut que tu te repentes sur la terre, que tu abandonnes ton péché et que tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ pour ta vie.
Et
Jésus est mort pour les péchés du monde, oui c'est vrai, mais il est mort pour tes péchés personnels. Si tu veux être sauvé, le salut doit devenir personnel, c'est-à-dire tu dois te repentir et accepter personnellement Jésus. Je vais laisser une minute. Y a-t-il des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus? Tu veux ce matin mettre ta vie en règle avec Dieu,
te
détourner de ton péché. On veut t'aider à prier. Je sais qu'il y a une très grande majorité